dans Megillah. Mordechai ben Yaïr ben Shimi, fils de Yaïr, le fils de Shimi. Ben Yaïr, ben Sheheir Eneyem, shel Israël Bitfilato. Un fils qui a illuminé les yeux des Bnei Israël par sa prière. Ben Shim'i, ben Sheshama Kel Tfilato. Un fils dont Hachem a entendu la prière. Ces drachot-là, c'est les drachot de la Gemara dans Megillah. C'est cette Megillah d'Af Yud Bet. En fait, on aurait pu penser que on a simplement présenté Mordechai. On a dit, voilà, Mordechai, il est le fils de Yaïr et de Shimi. Enfin, le fils de Yaïr qui est le fils de Shimi. Et les Chachamim, ils ont pris les noms de son père et de son grand-père. Ils en ont fait des drachotes. Des drachotes qui veulent dire quelque chose sur Mordechai. Sur la prière de Mordechai. De deux manières. Le deuxième dit... Hachem a entendu sa prière. Et le premier, c'est pour dire que par sa prière, il a Eir Eneyem, il a illuminé les yeux, ça veut dire il a donné de l'espoir, il a ouvert l'horizon. Donc ça veut dire ici, a priori, que la libération de Pourim, lors de cette libération, il y a eu des chidushim, pas seulement le grand chidush des Hadar Kibloua, pas seulement le grand chidush qu'ils ont réaccepté la Torah, mais cette fois-ci sans contrainte. Et là, que des choses dans la prière se sont révélées ici. Quelque chose de nouveau qui s'est passé au niveau de la prière. C'est ça, n'est-ce pas? Chez Eir et Neyem, chez l'Israël, Bitfilato. Nous, les prières que nous avons essentiellement, ce sont des prières qui ont été instaurées, qui ont été formulées, instaurées par les Anshei Knesset Hagdola. Anshei Knesset Hagdola, c'est la fameuse grande assemblée, 120 Chachamim, parmi eux des Nevi'im, etc. C'est avant le Sanhedrin, si vous voulez. C'est la grande, le grand rassemblement, la grande conférence de tous les maîtres de l'époque de Torah. Jusque-là, chacun priait comme ça lui venait. Chacun s'exprimait spécifiquement dans sa prière. Et donc, ils sont venus, un chef de Sagdola, et ils ont fixé des mots particuliers en nous disant que c'est avec ces mots-là, cette formule-là, On va prier. Et est-ce qu'ils ont fixé tout le sujet de la prière de la Shmoné Esrei, qu'on voit dans Megillah. Donc, ça veut dire que Pourim a quelque chose à voir justement avec cette Géoula a à voir avec la prière. dans la Gemara, dans Eruvin, marqué Yecholani liftor kol haolam kulo midin tfila. Je peux dispenser le monde entier de l'obligation de prier, parce que c'est marqué Shechurat velo miyayin. Shechurat velo miyayin, qui est-ce qui a dit ça? C'est Hana. Quand Hana a prié, elle a prié et le Kohen Gadol de l'époque, Eli, l'a prise pour une souillon. Et elle lui a dit, je suis effectivement ivre, mais pas de vin. Je suis ivre de douleur, de... Après le Khurban, après la destruction du Beth Amikdash, on était incapable d'être mechaven. On avait plus, on trouvait plus la bonne kavana. On savait plus comment dire les choses. On était comme un chikour, comme quelqu'un qui est sous. À cause des tsarot, à cause du galout, etc. Il se peut que ce soit dans cette geoula-là, Akadosh Baruch Hu a en quelque sorte accepté ce dévoilement de la Kedusha d'Israël. En vérité, il y avait une xéra de destruction des corps. Solution finale, en français. Comme le dit le Gaon de Vilna sur le pasouk, la Hashmid, la Harog ou la Bed. C'est-à-dire que le Gaon fait remarquer que, en plus de la Hashmid, de la Harog, c'est-à-dire de convertir, d'obliger à la conversion, de tuer, il y avait encore une xéra, le'abed et agoufim. Il fallait perdre les corps, c'est-à-dire les détruire complètement. Et dans la Geoula, c'est un processus qui s'appelle Venafoku, d'inversion des choses. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est attaché, si on veut comme dire comme ça, à faire le contraire exactement de toutes les xérotes d'Aman. Et c'est pour ça qu'il y a un dévoilement de la Kedusha des corps d'Israël. Puisqu'il voulait détruire les corps, pas simplement tuer les gens, détruire le corps. Dans le paradis Tzrak, il dit... On voit ici que, on voit dans l'histoire de la Megillah, qu'il est impossible que le monde soit sans que les Juifs soient connus, reconnus d'une certaine manière dans le monde. Que même si ils sont mélangés, on ne sache pas vraiment qui ils sont. C'est ce qui s'est passé avec les Aseret HaShvatim. On a quand même 10 tribus qui sont les tribus d'Israël, qui sont perdues au sens où on ne les reconnaît pas comme telles. Les gens, ils existent probablement encore, leurs descendants existent, mais on ne les reconnaît pas comme tels. Eux-mêmes ne savent même pas qu'ils le sont. Ça aussi, c'est impossible. C'est impossible que ça arrive pour tout le clan d'Israël. Il doit au moins y avoir une part du clan d'Israël dont les corps en tant que tels sont reconnus comme dans le monde. Et c'est parallèlement à cela, en quelque sorte, que les Bnei Israël ont reçu le pouvoir de fixer des lettres, des mots qui sont appelés goufim, qui sont appelés corps. Comme ça que la Gemara en parle quand elle parle dans des otiot, des lettres, dans le Sechet Megillah. Et dans ces lettres-là, dans ces corps-là, en quelque sorte, toutes les kavanotes vont être incluses dans ces corps. Le Nefesh HaChaim dit encore plus que ça. Il dit que dans la avodah de la tfila, dans le travail qu'on fait quand on prie, il dit que il y a un niveau supérieur de prière, en fait, qui consiste à se représenter quand on prie les lettres, les mots de la prière sur l'écran de nos cerveaux, quelque part. C'est un énorme chidouche. Il parle donc d'un chefza, d'un objet, lettres, des formes. Ça va au-delà de la Torah Shebichtav. Il y a une écriture qui est dans ma tête, et qui est l'écriture de la prière. C'est comme si on priait d'une part en parlant, et dans la prière, il s'agit de parler de telle sorte que mon oreille entende ce que ma bouche dit. C'est une condition pour la prière, ce qui fait qu'on ne peut pas prier simplement avec les yeux, mais qu'il y a aussi une autre façon d'écrire, en fait, enfin, une autre façon de prier, qui est d'écrire. Mais écrire non pas sur du papier, sur du parchemin, etc., mais dans notre cerveau, dans notre tête. Donc, bien que l'Anshei Knesset HaGdola disons qu'avant l'Anshei Knesset HaGdola, comme on a dit, chacun priait dans sa langue, on veut dire par là, dans la formulation de sa langue, pas seulement chacun avec la langue qu'il utilisait, mais aussi les formes. Il priait tel que ça sortait de son cœur, en fait. En fixant un noussar, en fixant en formatant en quelque sorte, avec des mots bien précis. Les Anshei Knesset HaGdola ont inventé, ils ont fabriqué ce qu'on appelle matbea chez le Gouf HaTfila. Ils ont fabriqué une empreinte, en quelque sorte, du corps de la prière, qui contient en soi toute l'élévation, tout ce qui se passe dans la prière. Et c'est ce que on vient de dire, que il se peut que tout ça, on l'ait eu par le massé qui s'est joué à Pourim. Parce que à Pourim, effectivement, il y a eu un chidouche par rapport au corps, par rapport aux les corps d'Israël, en quelque sorte. On ne parle pas seulement des neshamot d'Israël. Bien sûr, les neshamot d'Israël, elles ont une éternité. Mais même les corps d'Israël représentent ce mouvement-là. Sur les corps, sur ces corps-là, il y a toutes les promesses qui ont été faites à Israël. Il y a donc une correspondance entre Nefesh Israël et la prière qui s'appelle aussi Nefesh. C'est dans le passouk, c'est marqué Veshpoch et Nafshi. C'est encore une fois Hana qui dit à, qui explique à Eli, je déverse mon âme. Elle veut dire par là, j'étais en train de prier. Il m'a pris pour une souillon, mais j'étais en train de prier. Et quand les Anshei Knesset HaGdola ont vu cela, ils ont compris qu'il était nécessaire de fixer une formule précise. Et de la formuler de telle sorte qu'elle contienne tout en elle, de sorte que même si quelqu'un prie et qu'il ne comprend pas parfaitement le sens des mots, mais il veut seulement prier. Je prie. J'utilise des mots dont je ne connais pas obligatoirement le sens. Alors, les mots en question, ils sont suffisamment chargés pour faire le job. Les mots vont faire le travail. Il faut que je leur donne la dimension de fila. Je suis en train de prier. C'est pas si je dis des mots... Non. J'en parle comme de la tfila. Je prie, même si je comprends pas tout. Bon, c'est bien connu, c'est un fameux conseil qui circule comme étant un conseil donné par le Gaon, que pour être mechaven dans la tfila, regarde dans le Sefer, regarde dans le Sido. Or, le Gaon, quand il a répondu à quelqu'un qui disait qu'il avait du mal à être mechaven dans sa prière, et il lui a dit de regarder dans le Sefer, il lui a dit, sur quoi je me base pour te dire ça, c'est dans la Megillat Esther. C'est marqué, Im ha-sefer yashuv machshavto ara. Ce qui veut, ce verset-là, il parle de la marchava, de la mauvaise marchava de Haman. Il dit qu'avec ce sefer, que Mordechai et Esther vont envoyer, ça va annuler la mauvaise pensée. C'est ça qu'il dit. Ima sefer, avec le sefer, les mauvaises pensées qui t'empêchent de prier normalement, elles vont s'en aller. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la drasha de la Gemara sur Mordechai. La Gemara a dit que Eir Enehem Betfilato, il a illuminé les yeux des Bnei Israël par sa prière. C'est parce qu'il existe une façon de prier qui, elle est dite dans l'expression qu'on utilise, par exemple, Shabbat, Mincha, Vanit Fila. Et moi, je suis prière. C'est-à-dire, mon corps, tel qu'il est, il est plein de lumière et de kdoucha. Et donc, l'idée que shekhurat velo miyain, je suis ivre, mais pas de vin, qui est une façon de qui nous permet pas d'avoir le yishuv adat, d'avoir la concentration. Mais si mon essence, c'est d'être prière, alors même dans un état d'ébriété, en quelque sorte, je ne sais pas, même si je ne sais pas, je ne suis pas capable d'avoir les bonnes kavanotes, de mettre bout à bout de façon convenable toutes mes paroles, ben, je ne suis quand même pas dans une situation où je ne peux pas prier. Il ne manque rien à ma prière. Donc, Chazal disent, et Irénéem chez l'Israël, et Filato, ben, c'est sur le modèle de ce qui est dit sur les Urim Vetumim. Shayum Meirim, Gufea et Otiyot, et Negedenea Kohen. Comment fonctionnait le système des Urim Vetumim qu'il y avait sur le Kohen Gadol? Tous les consultés, il y avait les lettres, et les lettres s'illuminaient et donnaient la réponse à la question. Et comme vous savez, quand les lettres s'illuminent, vous avez un ensemble de lettres. Mais maintenant, avec cet ensemble de lettres, il faut savoir comment les assembler, dans quel ordre les assembler. Pour ça, on a besoin de Ruach HaKodesh. Le Ramban, il explique que le Kohen, qui était Mechaven, Beshem HaKodesh, qui s'appelle Tumim, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire, il est tamim. Libo shel Kohen Gadol beidiyat hatziruf. C'est-à-dire que Le Cohen était tamim, c'est-à-dire il était totalement réceptif, en fait. Il savait parfaitement bien comment associer les lettres. Donc il y avait Urim Vetumim. Urim, la lumière, c'était les lettres qui étaient lumineuses. Vetumim, que son cœur était Tamim Bidyat Hatsirufim, c'est-à-dire qu'il savait parfaitement bien assembler les lettres. Dans le poème Asher Eni qu'on récite après la lecture de la Megillah, on utilise la base, on parle de la prière de Mordechai et Esther. C'est que dans le monde, de façon générale, la prière, Nishmat, elle est entendue. Mais ici, c'est ce qu'on dit dans la Hachéreni, on parle de Riya, voir la prière de Mordechai et Esther. Ça a à voir avec les corps, en fait. Voir, ce sont les corps. Et donc, en général, celui qui est chicourt, celui qui est en état d'ébriété, donc, yodal et daber otiyot. Il savait les lettres, il sait les lettres en quelque sorte. Ce qui lui manque, c'est le date, le discernement. Donc, il ne sait pas mettre bout à bout ses paroles de façon convenable. Mais ce jour-là, ce jour de Pourim, où le dévoilement, qui est le jour du dévoilement de la Kdoucha des corps eux-mêmes. Alors nous, on fonctionne selon la Tmimout, selon le Hachem a ordonné au Bnei Israël. Tamim tiyé, tu dois être tamim, tu dois être entier. Mais vatlim, ça veut dire quoi avec Hachem? C'est-à-dire qu'on annule complètement notre date. Ça, c'est dans le cadre de la mitzvah de Adeloyada. Il s'agit d'annuler le date, il reste seulement le corps. Mais la tmimut à lèvres, le cœur est entier en quelque sorte. En confiance avec Hachem. Et on est confiant que les assemblements, l'assemblage de toutes les lumières en quelque sorte du jour de Pourim, ces assemblages vont se faire de la bonne manière. On est sommaire qu'Akadosh Baruch Hu nous dirigera en fait vers la vérité de sa volonté et que on sera capable de recevoir tout le flux de ses bontés. On sait que les Rahamim étaient très à cheval sur l'exigence de ne prier que quand on a l'esprit clair. Par exemple, les Rahamim, quand ils revenaient d'un long voyage, ils ne priaient pas jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leurs esprits. Mais à Pourim, on n'a pas cette exigence-là, pas tellement. Parce que la Kdoucha de Pourim va nous garder en quelque sorte de tout dérapage. Ouais, il faut espérer. Alors, on a parlé de ces lettres qui s'illuminent et qu'ensuite il faut savoir assembler. On dit qu'il fallait pour cela Ruach HaKodesh. Le Gaon de Vilna encore. Dans Kol Eliyahu, il dit que le Kohen Gadol, Eli, le Kohen Gadol qui était en service à ce moment-là, il utilisait Urim et Thummim. Il utilisait ce système d'interrogation d'Hachem. Ce système avec lequel les réponses viennent par illumination des lettres qui sont sur le prochain. Et ensuite, avec Thummim, avec ses qualités, il savait comment associer les lettres. Ces lettres qui sont illuminées pour avoir une réponse. Et il a interrogé les Thummim, Urim et Thummim, pour savoir qui il avait devant lui, là. Qui c'est cette bonne femme, là, qui pleure, qui... C'est quoi? Et il a mis les lettres bout à bout. Il y a 4 lettres qui sont arrivées. Shin Kaf Resh Heh. Et il a lu Shikra. Shikura. Il a lu... Et c'était une souillon. Mais le vrai tsirouf, le vrai assemblage de ces mêmes 4 lettres, c'est Kshéra. Cette femme est Kshéra, elle est Kshéra. C'est ce que Hana lui a dit. Lo Adoni, non mon Seigneur. Tu te trompes. La Gemara, elle interprète ça en disant Lo Adon Ata Bedavarze. Tu n'es pas le maître sur ce sujet-là. Tu n'as pas eu à ce moment-là de Ruach HaKodesh. Tu as vu les lettres. C'est-à-dire les Urim ont fonctionné. Mais le tsirouf, l'assemblage, tu ne l'as pas bien fait. En fait, on dit que c'est là que commence ce qui concerne le Maaseh Amalek. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, d'Amalek, on parle dans la Torah, dans Parshat Beshalach, où on nous parle de la guerre que les Israël ont faite contre Amalek. Cette guerre que Yoshua a faite sur le terrain, avec Moshe Rabbeinu sur la colline, qui, quand il avait les mains élevées vers le ciel, les Bnei Israël étaient inspirés et gagnaient la guerre. Quand Moshe Rabbeinu rebaissait les mains, il la perdait, etc. C'est dans la fin de Shalach. Et à la fin de Kitetsé, on a ce qu'on va lire le Shabbat, Parshat Zachor, l'autre référence sur la destruction d'Amalek. Et la troisième référence, elle est dans le Sefer Shmuel. Dans le Sefer Shmuel, il est dit, je le répète pour mémoire, la chose suivante. Vous savez probablement, Le Rambam, quand il décrit la fonction du roi, en particulier du roi Mashiach, qu'il devra faire, c'est qu'il va devoir éradiquer Amalek, faire des guerres, éradiquer Amalek. Le problème de faire disparaître Amalek, ce n'est pas un problème personnel. Si vous rencontrez en chemin quelqu'un qui est Amalek, vous n'avez pas d'obligation de le tuer. Ça se pourrait, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas d'obligation. Mais ça incombe au roi. Et le premier roi, Shaoul, il avait cette obligation. Et il a fait la guerre contre Amalek. Et il a gagné la guerre contre Amalek. Seulement, dans une guerre contre Amalek, il n'y a pas de quartier. Et l'obligation qu'il avait, c'était de tuer tout ce qui pouvait rappeler Amalek, c'est-à-dire tous les troupeaux d'Amalek, il fallait les détruire. Et si on... Et le roi, il fallait le tuer. Et Shaoul, il faut comprendre que Shaoul, c'est un super tzaddik. C'est quelqu'un qui ne faute pas. C'est parce que c'est lui, fauter. Alors Shaoul a pensé, on ne va pas tuer simplement tous les troupeaux, on peut en faire des corbanotes, faire des sacrifices pour Hachem. Et au lieu de tuer Agag, le roi d'Amalek, de le tuer comme ça sur le terrain, on va faire une grande cérémonie, on va lui couper la tête en public, ça va faire un kiddush Hachem, on va annihiler complètement toute trace d'Amalek. Et quand il revient de la guerre, Shaoul, il rencontre Shmuel. Shmuel, c'est Shmuel, le Navi, le prophète, qui a oint Shaoul. Et Shmuel aimait beaucoup Shaoul. Il aimait vraiment beaucoup. Et c'était réciproque. Et Shaoul arrive, et il salue Shmuel, et il lui dit, « J'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. » Shmuel, il est effondré. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'Hachem a demandé. Alors, il lui demande, est-ce que tu crois qu'Hachem, il préfère des sacrifices, faire des grandes cérémonies comme ça, ou est-ce qu'il préfère qu'on obéisse à ce qu'il demande? Alors, il a essayé de donner des réponses, il a tenu compte du peuple, etc. Donc, il a perdu la royauté à cause de ça, Shaoul. Et donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'en réalité, à ce moment-là, quand Hana prie et qu'elle est prise par Élie pour une souillon, elle prie et elle va par cette prière à ce moment-là, des années de prière. À ce moment-là, elle prie et sa prière est entendue et elle va mettre au monde son premier enfant, il y en aura d'autres après, son premier enfant, et elle va l'appeler Shmuel. Et c'est lui, Shmuel. Shmuel, c'est lui, le grand prophète. Quand quelqu'un de ces superstars, quoi. Shmuel, à la vie. Il est mis au même niveau que Moshe et Aaron. Et donc, ce qui est le moment de, non pas encore de la conception, mais de la prière qui va permettre, qui va entraîner la conception de, et puis la naissance, etc., de Shmuel. Et le grand problème de Shmuel, ce sera justement cette le fait de devoir oindre Shaoul, de transmettre l'ordre de d'éradiquer Amalek et de devoir par la suite annoncé à Shaul qu'il a perdu la royauté avec tout ça. C'est toute l'histoire de Pourim. Alors, pourquoi Pourim? Parce que quand Shaul n'a pas tué Agag tout de suite, il l'a fait prisonnier. Pour l'amener, il voulait le tuer publiquement. Mais en tant que prisonnier, entre-temps, Agag, il a eu le temps d'engrosser une servante, une femme. Cette femme a eu un enfant, donc, et de fil en aiguille, il y a une descendance de Agag, de ce roi Agag, jusqu'à ce qu'on arrive à Aman, qui est Aman Agagi, qui est le descendant d'Agag. Et donc, de cet échec de Shaul, naît toute l'affaire de Pourim. Parce qu'il naît Aman et sa volonté de détruire le clan d'Israël, etc. On sait très bien que à ce moment-là, c'est quoi? C'est un moment où au moment où il va y avoir, c'est la naissance de Shmuel. Mais avec la naissance de Shmuel, il y a eu quelque chose qui n'a pas bien marché. C'est que lors de cette prière-là, le tsirouf, l'assemblage des lettres n'a pas été bien fait. Élie n'a pas bien assemblé les lettres. Et donc, ça a entraîné Amalek. Parce que tant qu'il y a Amalek dans le monde, alors il y a quelque chose, une espèce de chatsitsa général, d'écran général, un bilboul. Les choses sont troubles. C'est-à-dire les assemblages ne se font pas comme ils devraient. Bon, alors, finalement, ultimement, quand on aura éradiqué, quand on aura tué Amalek, Aman, alors, il y aura une simcha qui va sortir de cette erreur, en quelque sorte. La chikra, le chikrout, l'état d'ébriété, ça va venir de cette, au lieu de kshera. Mais tant que ça, c'est seulement ultimement. Nous, on le joue un peu comme ça le jour de Pourim. Quand Hana a dit à Élie, Lo Adon Ata, tu n'es pas le maître. C'est-à-dire, tu n'es pas le maître qui est capable d'assembler. Tu n'as pas droit à Kodesh à ce moment-là. Pourquoi elle l'appelle Adon? Lo Adon Ata, tu n'es pas le Adon, tu n'es pas le maître. On peut peut-être penser que cette référence, ce Adon fait référence à un pasouk dans Yoshua. Les Chachamim disent ils disent sur Adon Kol Haaretz. Il veut dire que il arrache, il est le maître de la terre, il arrache les habitants d'un endroit et il en met d'autres. C'est-à-dire qu'il arrange les choses, il réorganise les choses selon sa volonté. Donc c'est ça qu'elle lui a dit. Tu n'es pas le Adon. Il n'y a pas de... La Shrina, elle n'est pas sur toi dans ce domaine. C'est pour ça que tu ne sais pas. Tu ne sais pas assembler les lettres comme il le faut. Alors, en vérité, nous, dans toutes nos prières, nous ne connaissons pas les tsiroufim. Mais on s'en remet à Hachem, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on dit au début de la Amida, on utilise le nom divin Adon. Donc, Sfatay Tiftach. Ouvre mes lèvres. Donc, que ce qui sort de mes lèvres, que toi tu ouvres en fait, toi tu es le maître. Alors, fais en sorte en quelque sorte que de mes lèvres ne sortent que les bons tirofim, les bons assemblages. Que j'arrive à faire des assemblages qui correspondent aux assemblages du monde d'en haut. Donc on voit que il y a dans les lettres en question, il y a une force. C'est une réalité. Il y a un corps, mais il y a aussi comme quelque chose, comme une espèce de un minéral, quoi, si on peut parler comme ça. Peut-être aussi quelque chose qui est qui vient se mettre dans le corps pour arriver à faire toutes les combinaisons qui correspondent aux combinaisons du monde d'en haut. Comme le Nefesh HaChaim le dit, que dans les mots de la Tfila, les Chachamim ont mis tous les assemblages de Kdusha qui sont nécessaires jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, dans cette idée, on pense que tout ce qui se passe, en fait, dans le monde, ce sont des tsiroufim, c'est des assemblages différents. Toutes sortes d'assemblages, toutes les situations résultent d'assemblages. Assemblage de lettres, si vous voulez. On considère que le monde a été créé avec des lettres. Ensuite, c'est ça. C'est que toutes les situations du monde sont résultent d'assemblages de lettres. Eh bien, tous les assemblages de lettres qui sont nécessaires pour que le monde arrive à son but, au but qu'Hachem lui a assigné, tous ces assemblages se trouvent dans les lettres en question. Nous, nous disons des mots, donc on pose en réalité des lettres, et on compte sur Hachem pour faire tous les assemblages nécessaires. Parce qu'ils sont tous, potentiellement, ils sont dans les lettres en question. Et c'est nous qui devons les activer, en fait. C'est notre obligation de prier. Donc, tous les tsirufim, tous les assemblages de Kdusha, donc, jusqu'à la fin des temps, sont là dans les lettres. Et donc, même notre simcha dans Ad de l'Oyada, ça aussi, ça dévoile une certaine Kdusha du corps juif, si on veut, qui, à un moment donné, a de l'oyada. Il n'y a plus de date. Il est sans date, ce corps. Néanmoins, dans ce corps, comme dans les lettres, toute la spiritualité, tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il y a en haut se trouve dans ce corps. Tout dans le corps ou dépendant de cela. C'est une expression halakhique qui dit que Gdushat Haguf lo paka bichdi. Quand il y a de la Gdusha essentielle, cette Kedusha, elle ne s'en va pas avec rien du tout. Il faut toujours un processus, ou un processus de pidyon, ou etc., pour enlever la Kedusha. Et donc, si la Kedusha est maintenant dans le corps, elle ne s'en va pas. Donc, sur Purim, on a aussi dit, justement, Yemei Purim, ces jours de Pourim ne disparaîtront pas parmi les ministres. C'est-à-dire que tous les autres Hagim, les autres qui sont liés à Yetziat Mitzrayim, etc., tout ça, ça va disparaître. Mais pas Pourim. Alors, évidemment, on essaie que on va essayer pour que Apourim, effectivement, ces lumières qui s'allument, Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, ces lumières-là, elles s'allument à Apourim, au moins qu'elles tiennent jusqu'à l'année d'après. De la même manière que les jours de Apourim ne disparaîtront pas, la fête de Apourim. Le Rambam écrit que la Megillat Esther, l'otit batel leolam. C'est-à-dire, dit Rambam, la Megillat Esther, elle va perdurer comme les Chamisha Chumshe Torah, comme les Halachot de Torah Shebal Peh, qui sont là, qui sont éternels. C'est ça l'expression, en quelque sorte, de la volonté d'Hachem. Et la Megillat Esther, qui parle, d'une certaine manière, de la durée éternelle, donc, du clan Israël. Alors, il y a un Midrash qui dit que Yom Kippour, qui est comme Purim, comme chacun sait, c'est un enseignement du Golan aussi, donc, que Yom Kippour, lo yitbatel non plus. Parce que Yom Kippour, il vient pour annuler la xéra de Va'achalem. Je beaucoup avait dit, les Bnei Israël ont odor, Hachem a dit, laisse-moi, je vais les détruire finalement, je vais en finir avec le peuple d'Israël qui n'arrête pas de se révolter, etc. Pour annuler ce mot qui a été prononcé dans Falem, le Maharal dit que on a besoin de Yom Kippour pour ça. C'est Yom Kippour qui va annuler ce décret. Il faut savoir. Israël était en danger de mort. Et quand Esther et Mordechai ont voulu instaurer Pourim, il y a des gens qui s'y sont opposés. Il y a des gens qui ont dit: Nous habitions dans des villes fermées avec des murailles et nous connaissions parfaitement nos voisins, les goïms, nos voisins. Et on était en très bon terme avec eux. Ils ne nous auraient pas fait de mal. Donc on ne voit pas pourquoi il faudrait faire Pourim. Il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent se couper du clan Israël. C'est un décret contre le clan Israël, l'éradication du clan Israël. Ils s'imaginent, après coup bien sûr, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont une dette de reconnaissance à l'égard d'Hachem, qu'Hachem les a sauvés. Les gens pensent, non, nous on n'était pas concernés. Il y a toujours des gens qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Gens qui pensent que voilà, le clan Israël est touché, mais eux, ils pensent que non, on n'est pas vraiment concernés. Alors, il a été question, effectivement, qu'ils ne fassent pour lui. On a envisagé qu'effectivement il ne participe pas pour lui, mais la Gemara dit que finalement on s'est dit qu'on ne voulait pas quand même couper le clan Israël en deux, donc on a décidé, ils ont décidé que eux ne feraient pas pour lui en même temps que tout le monde. Ils feraient pour lui non pas le 14 mais le 15. Alors ensuite on a pris, comme eux, ils parlaient de murailles, alors on a pris non pas les murailles et les leurs, mais les murailles du temps du Joshua Ben Nun, etc. Certains disent que pourquoi on a pris ça, parce que c'était le seul moyen de parler d'Eretz Israël dans la Megillat Esther. Comme on n'en parle pas du tout, alors dans les Dinim de Pourim, on a dit que les murailles qui servaient de référence, c'est les murailles qui sont très très anciennes, qui viennent du moment de la conquête de Joshua. Alors aujourd'hui, il y a des villes comme, on dit Yerushalayim, on dit sur Yafo, prenons d'autres endroits que je ne connais pas. Bon, ce n'est pas très bien. On date vraiment ces murailles, mais on a une tradition.
Une trahiole sur Strasbourg.
Pardon ? Oui.
Daniel Schwartz pense que Strasbourg est concerné.
D'accord. C'est il y a assez longtemps, hein, le choix. Je ne sais pas si Strasbourgeois, il en était un.
C'est pas de moi, hein.
Non, mais je vous accuse de rien du tout. Je dis seulement que c'est il y a longtemps. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Donc, ce qui est important, c'est aujourd'hui, on a complètement perdu cette idée, quoi, parce que les gens font le 15, on fait le 15, et on ne se rend pas compte qu'en réalité, une des raisons pour lesquelles on fait le 15, ce n'est pas la seule raison évidemment, on fait le 15, c'est parce qu'il y avait des gens qui n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas exprimer de reconnaissance, ils ne voulaient pas s'astreindre à quoi que ce soit. Considérer que ce serait marqué toutes les années qu'on a une dette de reconnaissance à Hachem parce qu'il nous a sauvés. Non, non, ils ne sont pas prêts à ça. Il y a des gens qui sont un peu surprenants. Surprenants quand même de se raconter des histoires pareilles. Voilà, on va s'arrêter pour ce soir. Je vous souhaite...